Le texte biblique que nous allons lire et qui portera notre méditation de ce jour prend place dans le chemin de Caté, des jeunes du foyer de l'âme. Et dans ce chemin qui a pour sens le simple mot « avec », un mot très banal mais extrêmement important, eh bien, nous en arrivons aujourd'hui à une nouvelle étape. Nous avons déjà parlé du « Je suis avec toi » avec le texte d'Exode 3. Nous avons parlé aussi au caté d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et aujourd'hui, le thème de ce catéchisme occulte, eh bien, c'est « Avec joie ». Voilà. Et c'est donc pourquoi nous écouterons tout à l'heure le texte que va lire Sophie, que lira Sophie, mais avant, je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, par ton esprit de vie, que dans la lecture des Écritures, ta parole vienne comme la lumière du matin, comme une douce brise, comme monte la mer dans une marée d'amour. Que ta parole vienne, comme se lève le vent, comme descend la nuit et son apaisement d'étoiles, comme se pose la pluie sur la sueur du jour. Que ta parole vienne, et que le cœur se gonfle de sève, comme un arbre de vie, à l'image de ton Fils, notre frère, Jésus le Christ. Amen.
Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 24. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages de prophètes. Examinez tout, retenez ce qui est bien. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier, que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance. C'est lui qui le fera.
Mais qu'est-ce que ce texte ? Serait-ce une liste de bonnes résolutions ? De celles qu'on peut prendre au 1er janvier et qui, déjà le 9, peuvent être oubliées ou abandonnées ? Serait-ce une liste de choses à faire ? Vous savez, ce qu'on appelle une « to-do list » à ajouter à toutes celles qui gouvernent les journées, qui gouvernent aussi les images qu'on voudrait donner de soi-même ? Serait-ce une liste de directives, comme un règlement intérieur pour communauté chrétienne ? Ou alors la liste des critères d'évaluation des bons chrétiens ? Eh bien non, ce n'est rien de tout cela. Serait-ce peut-être une petite comptine bien rythmée pour la retenir facilement. 8 verbes, chacun suivi d'un adverbe ou d'un bref complément. Réjouissez-vous, toujours. Priez, sans cesse. Rendez grâce, en toutes circonstances. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les messages des prophètes. Retenez ce qui est bien. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Nous pourrions la mémoriser ainsi, mais cela ne nous dirait pas plus ce qu'est ce texte. Dans cette liste, retenons particulièrement ce matin les 3 premiers verbes. Réjouissez-vous, priez, rendez grâce. 3 impératifs dont nous comprenons bien vite qu'il ne s'agit pas d'ordre auquel il faudrait obéir sans plus, car ces verbes ne peuvent donner lieu à des obligations, sauf à les vider de tout sens. Une joie sur ordre, une prière imposée, une action de grâce exigée, comment saurait-elle être sincère et véritable? De plus, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. Il n'y a pas de limite. Mais comment se réjouir toujours quand nous vivons dans un monde et un début d'année où s'accumulent les tragédies, les conflits, les drames, les épreuves, les angoisses? Comment prier sans cesse avec des emplois du temps tellement chargés, avec la pression de réussir ses études, les objectifs, les projets et même la retraite? Comment rendre grâce en toutes circonstances, quand nous sommes affligés de maladies, de deuils, d'échecs, de ruptures? L'apôtre Paul n'est pas un adepte de l'autosuggestion, ni un coach en développement personnel. Et il sait aussi très bien que la situation des chrétiens de Thessalonique est difficile, car ils sont soumis à des persécutions, tant de la part de la communauté juive que de la part des païens. Et même si les Thessaloniciens attendaient le retour du Christ en gloire dans un futur imminent, ces impératifs, nous les lisons aujourd'hui et nous pensons qu'ils ne sont pas caducs, même si 2000 ans après Paul, ce retour en gloire du Christ n'a pas eu lieu. Réjouissez-vous, priez, rendez grâce sans cesse, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Alors, Paul n'imprime pas un sceau divin sur son message pour couper court à toute réflexion. Paul est l'apôtre de la liberté, même dans cette lettre, la plus ancienne de celles qu'il a écrites et qui sont conservées. Les exhortations, toute exhortation de Paul, et celle-ci en particulier, sont fondées sur la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus le Christ, mort et ressuscité par Dieu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu en Jésus-Christ à notre égard est jaillissement, surgissement, résurrection de la vie, création et recréation de vie pour nous vivants. Et certes, pour cela déjà, nous pouvons nous réjouir, prier et rendre grâce sans cesse. Se réjouir, prier, rendre grâce, les trois verbes sont étroitement liés. La joie évoquée par Paul est différente des joies que nous éprouvons ordinairement. Ce sont des joies qui sont suscitées par des événements et des circonstances, la joie d'une fête, la joie d'une réussite, la joie d'une guérison, la joie de la compagnie d'une personne qu'on aime, la joie de la beauté d'un paysage ou d'une musique. Ces joies sont véritables, absolument, mais elles sont aussi temporaires. Elles sont parfois un peu ambiguës. Et elles sont concurrencées par les événements malheureux qui surviennent et qui sapent la joie. La joie dont il est question dans l'épître de Paul, qui ne dévalorise pas les autres joies, c'est une joie qui ne dépend pas de ce qui survient, parce que c'est la joie de la foi. C'est-à-dire que c'est la joie d'être, quoi qu'il arrive, au bénéfice des dons de Dieu, l'amour, la grâce, l'Esprit, le Christ. C'est la joie d'être, quoi qu'il arrive, reconnu et appelé comme une personne digne et de grande valeur. C'est la joie d'être, quoi qu'il arrive, destiné à la vie éternelle, à un bon donné, à un avenir bon, et déjà de notre vivant. Que nous nous réjouissions, oui, c'est la volonté de Dieu, écrit Paul, mais ce n'est pas une volonté que nous avons à faire, à mettre en œuvre, à réaliser, c'est une volonté à recevoir en Jésus-Christ et par l'esprit. Ce qui signifie que la joie est profondément associée à la gratitude, à l'espérance, à la vie spirituelle, à la prière. Réjouissez-vous sans cesse, puisqu'il s'agit de la joie de la foi et que la foi n'est pas seulement l'affaire du dimanche matin. Il paraît que les protestants ont la réputation d'être austères plutôt que joyeux. Et ça, c'est bien dommage. Il serait bien temps de faire évoluer cette réputation. Parce que si la foi est sérieuse, elle ne peut pas être triste. Même si la réjouissance ne se révèle pas forcément par des manifestations sonores et publiques d'exubérance, il est bon que Paul nous rappelle aujourd'hui que la joie n'est pas une option de la foi, mais qu'elle en est un des éléments constitutifs, un élément constitutif de la confiance au Dieu qui donne et qui appelle, le Dieu qui crée et qui ressuscite. Et c'est pourquoi Paul écrit aussi « Priez ». Priez sans cesse, parce que la prière, c'est la manière de prendre soin de la relation à Dieu, c'est-à-dire de la foi. Nous entendons souvent dans le mot « prière » un temps mis à part, au culte par exemple, ou dans les journées, le matin, le midi ou le soir. Et nous entendons « prière » comme une expression de mots, de mots adressés à Dieu. Et d'ailleurs, les évangiles montrent à plusieurs reprises Jésus se retirant seul pour prier. Et ces évangiles précisent quelquefois, rarement, le contenu de sa prière. Les mots des prières que nous prononçons au culte ou dans d'autres circonstances, dans d'autres temps mis à part pour cela, sont soit des mots qui nous sont transmis, que nous reprenons, que nous partageons, soit des mots qui nous viennent spontanément aux lèvres. Mais la prière est plus vaste que ces mots prononcés du fond du cœur dans des temps réservés pour prier. Cette descente en soi, comme une plongée lente dans ses propres profondeurs intérieures, cette écoute d'une musique qui ouvre au fond de soi comme une immensité. Ce doute qui retourne dans tous les sens les images de Dieu devant les misères des vivants et de la terre. Ce silence intérieur qui s'installe. Cette remise profondément désolée à Dieu, de ne pas savoir, de ne pas pouvoir prier avec des mots. Ces quelques paroles, deux ou trois, d'un texte biblique qui tourne et retourne dans la tête jusqu'à faire apparaître quelque chose qui bouleverse. Tout cela, c'est aussi prière. Mais également une tâche quotidienne effectuée de ses mains, du ménage, du bricolage, réalisée avec la conscience du sens qu'elle porte et des relations qu'elle implique. Une discussion au cours de laquelle on se met à parler des choses essentielles, sans prétention. Et soudain, une parole prononcée porte véritablement la parole de vie. Désirer de toutes ses forces, peut-être même douloureusement, que la cruauté cesse, que la bêtise cède, et que le monde, et peut-être soi-même, soit différent. Éprouver de la gratitude, pour quelque raison que ce soit, et la laisser grandir en soi, la cultiver, la raviver, la laisser déborder de soi, tout cela est prière. Et prière, la disposition d'esprit par laquelle on se tient en communication avec celui qui se tient dans la profondeur de l'intimité de chacun pour l'ouvrir à sa transcendance. et prière la disposition d'esprit par laquelle on se tient, on se sent accompagné par celui qui appelle et qui donne, qui crée et qui ressuscite. Et cela peut être n'importe quel instant, cela peut être chaque instant. Par exemple, dans l'épisode des Évangiles où Jésus commence par renvoyer la femme syrophénicienne en la comparant à un chien quand même. Lorsqu'il change d'avis grâce à ce qu'elle a dit et qu'il accepte de guérir sa fille, c'était une attitude de prière. Parce que toute la vie de Jésus de Nazareth, le Christ, même ses impasses, étaient reliées à Dieu. Ce qui l'a conduit à comprendre que cette femme était aussi au bénéfice de la puissance créatrice et recréatrice de Dieu. La vie spirituelle, ce n'est pas un compartiment de l'existence. Elle n'est pas à part de la vie familiale, de la vie professionnelle, de toutes les sphères d'activité ou simplement de présence. La vie spirituelle, c'est cette vivification de la conscience. C'est l'imprégnation progressive de toute l'existence par la puissance transformatrice de l'Évangile. Celui ou celle qui prie est ouvert à plus que lui-même ou elle-même et ne se prend pas pour la mesure du monde en comprenant que la grâce est encore bien plus vaste que ce qu'il ou elle en a reçu. Alors réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances. Rendre grâce rassemble et contient les deux verbes précédents. Car rendre grâce, c'est prier avec joie, c'est prier dans la joie, faire part de sa reconnaissance de et à Dieu. Et en toutes circonstances. Non que tout ce qui survient vienne de Dieu et qu'il faille rendre grâce, ratifier ou acquiescer à tout ce qui arrive, certainement pas. Dieu n'est pas la cause des événements. Mais en toutes circonstances, se mettre en relation, se connecter avec ce « oui » originel déposé au fond de chacun de nous. Parce que le bon de la création excède le mal que nous faisons ou que nous subissons, et qu'alors nous ne sommes pas envahis par le désespoir, nous ne perdons pas le goût de tout et le goût de vivre. Ce n'est pas qu'il y ait plus de bon que de mal en quantité, mais c'est que le bon déborde, transperce, traverse, même dans le pire des chaos, non pour tout arranger, mais pour que nous puissions vivre l'Évangile, ou pour le dire autrement, pour qu'en toutes circonstances, nous puissions rester humains. Rendre grâce, alliance de joie et de prière, c'est se sentir, c'est être vivant et présent, engagé avec d'autres dans le temps qui est. Les impératifs de la lettre aux Thessaloniciens indiquent à la fois un présent et un horizon, c'est-à-dire un chemin et un sens. Car le temps présent, quel qu'il soit, n'est pas clos pour personne. C'est aussi le temps de la promesse, ouvert à un avenir. Rendre grâce ouvre un espace d'engagement, de mouvement pour être et pour agir. Rendre grâce crée du chant, du jeu, c'est une mise au grand large. Oui, se réjouir, prier, rendre grâce, c'est répondre oui au oui de Dieu, déposé en chacun, que rien ne peut effacer, ce oui qui affermit l'âme et le cœur, qui donne courage d'être et d'entreprendre, même au risque de l'échec. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. Par la joie, la prière, l'action de grâce, par ce qu'elle représente de relation à Dieu, nous devenons une personne, une par l'unité intérieure qui est suscitée par la joie, la prière, l'action de grâce. Nous devenons une personne qui peut dire « me voici », présente ou présent. Par la joie, la prière et l'action de grâce, nous sommes intégrés au monde, solidaires, non par approbation, mais par engagement libre et responsable, inscrits en relation malgré les solitudes, les amertumes et les replis sur soi. Par la joie, la prière et l'action de grâce, nous sommes éclairés dans le sens de la vie et de l'humanité, malgré les absurdités et les désespoirs. Et nous pouvons examiner les situations dans lesquelles nous nous trouvons grâce à ce que l'Évangile et les Écritures nous donnent de comprendre de l'existence humaine et des rapports humains. Et nous sommes grandis, élargis, mis au large comme une libération et comme une dilatation de l'âme, du cœur, de l'être. Et le monde aussi devient plus vaste. Telle est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. Une volonté de joie et de vie, de liberté et de responsabilité. Une volonté de communion avec lui en Jésus-Christ et avec les autres. Une volonté de nous faire participer à ce que le regretté professeur Raphaël Picon appelait l'enjoiement du monde, afin que le monde devienne plus vivable et plus accueillant. Amen.